Frédéric Rollin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en investissement pour Pictet Asset Management. On va parler avec vous donc de ces marchés, des perspectives sur ces marchés. Un petit mot pour commencer forcément sur ce mois de janvier. Contraste complet par rapport à l'ambiance de fin d'année dernière, en tout cas des derniers mois. Est-ce qu'il y a des raisons à cela? Est-ce que c'est de la psychologie? Bien sûr, on a vu cette volatilité. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter?
Alors effectivement, pour nous, il y a trois raisons qui sont des raisons sérieuses, hein. D'abord, la Fed monte ses taux. Alors ça, ce n'est pas nécessairement les conditions pour un mauvais marché. En général, 12 mois après le début de hausse des taux de la Fed, les marchés actions sont plus hauts, tout simplement parce que la croissance américaine souvent est là. Néanmoins, ça crée de la volatilité parce que les marchés perdent un soutien et du coup, ils deviennent plus exigeants en termes de données économiques. Dès qu'il y a des chiffres un peu mauvais, on craint la récession parce qu'on a peur que la Fed ne fasse rien. En revanche, dès que les données sont un peu trop bonnes, à ce moment-là, on a peur que la Fed accélère sa hausse des taux. Donc on souhaite être dans un chemin assez étroit et dès qu'on touche les bornes, ça crée de la volatilité. Mais ça, c'est plus du court terme. Deuxième facteur qui nous paraît aussi plus du court terme, mais qui est quand même assez important, c'est la baisse brutale des prix du pétrole, qui dans un premier temps a un effet négatif, dans un deuxième temps aura très probablement un effet positif sur l'économie. L'effet négatif, aujourd'hui, eh bien, il se voit sur le marché, notamment des obligations au rendement américaines. Le pétrole de schiste américain est très touché. Néanmoins, pour l'instant, on ne voit pas de diffusion à travers l'économie. Quand on regarde les indicateurs avancés des différents États, seuls les États qui sont assez proches, enfin qui ont beaucoup de leur économie sur le pétrole, sont en train de voir une décélération. Les autres États vont aujourd'hui plutôt encore bien, donc d'après les indicateurs. Donc quelque chose qui localement va être un problème, mais à moyen terme va amener de la consommation aux États-Unis. Puis troisième problème, alors qui est lui un petit peu plus embêtant, et même clairement plus embêtant, c'est la question, je dirais, 1 000 milliards de dollars sur les marchés aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine effectivement ralentit, on a plutôt des chiffres assez médiocres, ils sont un petit peu meilleurs quand même, on voit des niveaux de stabilisation, et ça effectivement, le risque d'atterrissage brutal de l'économie chinoise, eh bien là, nous on pense qu'on aura des meilleures nouvelles dans les 3, 6, 9 mois, parce que la politique monétaire et la politique budgétaire est en train d'être plus accommodante, mais il va falloir peut-être patienter un petit peu avant d'avoir des bonnes données. Donc les marchés vont continuer d'être inquiets. Donc ça, c'est les justifications de la baisse. Néanmoins, il y a des raisons d'être optimiste aussi par ailleurs.
Où est-ce que justement on peut les trouver? Parce que quand on regarde finalement les différentes classes d'actifs, on pourrait dire les actions étaient avant cette correction du mois de janvier, nous montraient que, entre guillemets, tout allait bien. On regardait le pétrole, on se disait, mais est-ce que finalement il ne nous annonce pas la récession qui est venue? Du côté des taux, ce n'était pas non plus l'euphorie. Qui a raison finalement dans les différentes classes d'actifs? Où est-ce qu'on va chercher celui qui dit la vérité sur ce qui va se passer
Alors,
dans les prochains mois?
je pense qu'il faut le chercher dans les fondamentaux économiques. Il y a deux choses que le marché questionne aujourd'hui, c'est est-ce qu'effectivement la croissance américaine va tenir et est-ce que la Chine va connaître vraiment un désastre économique ou non. Sur la croissance américaine, on voit des signes à court terme sur le pétrole qui sont négatifs, mais néanmoins, le consommateur est toujours là. Et c'est le consommateur américain qui fait 70% de l'économie américaine et c'est le consommateur américain que, depuis 30 ans, les marchés actions finissent toujours par suivre. Or, le consommateur américain, il a de l'emploi, il est beaucoup moins endetté qu'auparavant, il a des hausses de salaire et en plus, il va avoir une baisse des prix à la pompe. Donc, c'est des facteurs assez importants, structurants, hein, qui nous laissent prédire une consommation américaine autour de 3,5%. Donc, 3,5% de croissance de consommation, 70% du PIB, on n'est pas loin de 2,5%. Clairement, la récession américaine nous paraît hors de propos et ça, donc, c'est une des raisons d'investir aujourd'hui puisque quand même, dans les marchés, il y a cette idée. Le deuxième point, c'est la Chine. Question plus difficile. Souvent, les statistiques on en a moins, elles sont un petit peu moins fiables. Néanmoins, on a une politique monétaire qui a été mise en place dans le courant de l'année dernière qui commence à être assez forte maintenant. Il y a encore des possibilités puisque l'inflation reste basse. Une politique budgétaire qui a commencé au dernier trimestre 2015, un peu tardivement certes, mais qui est là. Et du coup, on devrait avoir des meilleurs chiffres.
Alors ça, les pessimistes là-dessus, hein, sur la Chine, disent la Chine d'aujourd'hui, c'est les États-Unis de 2008, hein, ceux qui voient vraiment le scénario noir.
Alors, ça reste une possibilité ouverte. Effectivement, depuis 2008, la Chine a énormément développé son crédit et son crédit s'est développé beaucoup plus rapidement que son économie, si bien qu'aujourd'hui, les volumes de crédit alloués aux entreprises chinoises ou aux ménages chinois, eh bien, représentent 200%, enfin plus de 200% du PIB, c'est-à-dire un niveau équivalent à celui d'une économie développée, sans pour autant que la Chine puisse être considérée comme une économie développée. Donc ça, effectivement, la Chine est en train de traiter ce problème. Va-t-elle être capable ou non de traiter ce problème? Nous, on pense que oui. Pourquoi? Parce que la Chine est un pays riche, hein, qui a beaucoup exporté, qui continue de beaucoup exporter. Hein, c'est un pays qui reste aujourd'hui très compétitif, 60 milliards de dollars par mois environ de devises qui rentrent dans le pays. Donc il y a les moyens de gérer en douceur sa descente, et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Hein, tous les pays ne peuvent pas à la fois baisser les taux défendre leur devise. La Chine le peut parce qu'elle a des réserves très importantes. Tous les pays ne peuvent pas mettre en place des politiques d'expansion budgétaire. La Chine le peut parce qu'elle a des comptes très équilibrés. Donc il y a, j'irais aujourd'hui, énormément de possibilités pour la Chine pour stabiliser son économie. Peut-être qu'à la fin, elle n'y arrivera pas, mais probablement pas en 2016. C'est plus tard qu'on le verra. 2016, on devrait avoir quand même de nouveau des bonnes nouvelles sur l'économie.
Justement, ça amène à parler de ces pays émergents qui ont été largement délaissés par les investisseurs. On a parlé du pétrole, on n'a pas parlé des devises, mais il y a eu un effet effectivement aussi sur les devises. Aujourd'hui, il y en a certains, on commence à en voir, c'est-à-dire finalement, il y a peut-être des opportunités sur ces marchés émergents, puisque justement, ils ont été autant délaissés. Est-ce qu'aujourd'hui, on les regarde différemment ou, compte tenu peut-être de cette volatilité, on est encore prudent, en tout cas de votre côté?
Alors nous, on revient progressivement sur les marchés émergents. On a été vendeur une partie de l'année 2015. Vers septembre, début du dernier trimestre 2015, on s'est mis neutre et là on commence à acheter. Alors peut-être un petit peu tôt, on verra. De toutes les façons, on n'achètera pas exactement le plus bas, mais je pense qu'il y a de bonnes raisons aujourd'hui d'être un petit peu plus optimiste sur les marchés émergents. D'abord, parce que effectivement, il y a un pessimisme très très fort. Ça fait un moment que les investisseurs vendent, donc il y a une sous-pondération très très forte. Les valorisations sont historiquement très attractives. On est sur des niveaux de valorisation équivalents à ceux, je dirais, de 98, c'est-à-dire à peu près 30% de sous-évaluation des actions émergentes par rapport aux pays développés, plutôt 35 même, des taux qui sont à 7,5, donc ce sont des taux qui sont très intéressants. Donc il y a une opportunité qui, aujourd'hui, où beaucoup d'investisseurs pensent que voilà, ça va vraiment très mal se passer. Or, nous, on pense que le consommateur américain va tenir, on pense que la Chine est en train de mettre en place une politique de relance, et donc pour nous, c'est clairement aujourd'hui le temps de s'y remettre progressivement, parce que voilà, on va continuer, ça va continuer d'être turbulent. Les bonnes nouvelles que nous pensons, prévoyons aujourd'hui, ne vont se distiller que progressivement, et le marché mettra du temps probablement en plus à les assimiler compte tenu du pessimisme ambiant.
Le mot de la fin, justement, on a eu jusqu'ici, avant cette crise début d'année 2016, les marchés européens favorisés, marchés actions européens. Est-ce que c'est toujours le cas?
Alors nous, c'est toujours le cas, effectivement, marché européen, marché japonais. C'est vrai que l'économie américaine pour nous va tenir, mais les marges des entreprises vont être sous pression en raison des hausses de salaires. En Europe, on est plutôt au début du cycle économique, le Japon aussi. Donc une possibilité, même dans des croissances économiques qui sont plus faibles que celles des États-Unis, une possibilité d'expansion des marges qui est plus importante. Et donc nous favorisons effectivement l'Europe et le Japon aujourd'hui contre les États-Unis.
Merci Frédéric Rollin.